VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 23 mars 2022. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sebulia
et John Linden.
Nous commençons par les titres.
Le président de l'Union africaine, Macky Sall, plaide pour une aide à l'Afrique qui subit de plein fouet la guerre en Ukraine.
Un soldat sénégalais a été tué dans une opération contre les rebelles de Casamance.
Au Burkina Faso, l'Assemblée législative de la transition est entrée en fonction mardi.
En Guinée, la junte au pouvoir a ouvert hier une conférence de réconciliation boycottée par plusieurs organisations politiques.
Le président Joe Biden se rend aujourd'hui en Europe pour des sommets de l'OTAN, du G7 et de l'Union européenne à Bruxelles sur l'Ukraine et aussi une visite en Pologne.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le président en exercice de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall, a appelé hier mardi à Dakar les partenaires internationaux dont la Banque mondiale a aidé l'Afrique à faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine.
Monsieur Sall a demandé notamment que l'on réalloue au continent les DTS ou droits de tirage spéciaux des pays riches pour soutenir les efforts de résilience et de relance économique du continent. Il s'exprimait en présence du président de la Banque mondiale, David Malpass, lors d'une conférence de presse.
Nous avons échangé sur cette conjoncture mondiale marquée par l'impact inquiétant de la crise en Ukraine sur nos économies fragilisées. Le continent africain subit de plein fouet cette guerre en Ukraine, a déclaré M. Sall.
Les DTS sont une sorte de monnaie créée par le FMI. Ils peuvent être accordés par le FMI directement aux pays membres. Ces derniers peuvent les utiliser soit pour rembourser leurs obligations auprès du FMI, soit pour ajuster leurs réserves monétaires.
Et puis, l'armée sénégalaise a annoncé hier mardi avoir totalement détruit ou occupé les bases rebelles dans plusieurs régions de la Casamance, déplorant un soldat tué et 8 blessés lors de l'opération militaire.
Les affrontements ont fait plusieurs morts dans le camp des rebelles, a annoncé l'armée sans en préciser le nombre, ajoutant que d'autres séparatistes ont fui en abandonnant armes et matériel. Elle avait annoncé le 13 mars le lancement d'une opération en Casamance afin de démanteler les bases de la faction rebelle MFDC de Sadio.
Au Burkina Faso, les 71 députés nommés au sein de l'Assemblée législative des transitions ont pris leurs fonctions mardi. Ils sont chargés de voter les textes des réformes prévues pendant la transition. Le point avec Abdourahmane Dia.
La séance s'est ouverte hier au siège du Parlement à Ouagadougou. Les députés, qui ont formellement procédé au port de leur écharpe, ont été acclamés à l'appel de leur nom avant d'être installés par le doyen d'âge Jean-Hubert Bazier, qui a présidé la session inaugurale. L'enseignant-chercheur Aboubakar Togouyeni, 58 ans, a été élu à la tête de l'Assemblée législative de transition. Il a été nommé député par le chef de l'État. Mon mandat sera inscrit dans le sens de l'engagement pour le pays dans sa quête de sécurité, de dignité et d'honneur, a déclaré M. Togouyeni après son élection. C'est une transition pour asseoir les fondements pour une société plus juste et de moralisation de la vie publique, a-t-il ajouté, appelant à la contribution de tous les Burkinabés pour la construction d'un Burkina nouveau. Les 71 députés ont été désignés par le chef de l'État, les forces de défense et de sécurité, les organisations de la société civile, les représentants des régions du pays et par les partis politiques. Leur entrée en fonction intervient 2 mois après le coup d'État qui a renversé le président Roch Marc Christian Kabore.
En Guinée, le chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, a ouvert hier une conférence de 6 semaines qu'il a présentée comme une occasion historique de panser les plaies d'un passé troublé. Plusieurs organisations politiques boycottent ses assises, Nathalie Barge.
Le colonel Mamadi Doumbouya, qui s'est fait investir président, a placé ses assises sous le signe de la réconciliation et du pardon après des décennies d'histoires souvent brutales où les Guinéens n'ont pas cessé de se faire du mal, a-t-il déclaré, ajoutant que l'un de ses combats à la tête du pays est d'offrir à ses prochains dirigeants une nation unie, forte et prospère. Le chef de la junte n'a toujours rien dit sur l'échéance à laquelle il entend rendre le pouvoir à des civils élus. Plusieurs voix se sont élevées pour exprimer leur scepticisme devant cette initiative, au contenu et aux objectifs vagues. L'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, qui compte une vingtaine d'organisations, a décidé de ne pas y prendre part, a indiqué Aliou Condé, un responsable de l'Union des forces démocratiques de Guinée, le parti de Sélou d'Alain Diallo. Le Front national pour la défense de la Constitution, collectif ayant orchestré la contestation sous Alpha Condé, a également dit son intention de rester à l'écart. Ces assises, organisées à Conakry et dans d'autres régions, se tiendront jusqu'au 29 avril.
Au Soudan du Sud, le mouvement du vice-président Riek Machar a annoncé mardi se retirer de l'instance chargée de contrôler l'application de l'accord de paix de 2018, menaçant un peu plus la fragile quête de stabilité du plus jeune pays du monde. Il a accusé l'armée et les forces loyales à son rival, le président Salva Kiir, de mener régulièrement des attaques contre ses bases.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La guerre en Ukraine, au 27e jour de l'invasion de ce pays, l'avancée des troupes russes semble figée au nord-ouest et à l'est de Kiev, la capitale, Mohamed Houmfa.
Au troisième couvre-feu depuis le début de la guerre, imposé de lundi soir à ce matin, tous les commerces ont été fermés. Dans les rues désertées de la capitale, seuls circulaient les voitures blanches striées de bleu de la police, quelques camions militaires et de rares véhicules civils filant en trombe, occupés par des hommes en armes ou en treillis. Dans l'ouest, le nord et l'est de Kiev, des tranchées et postes de combat ont été aménagés au hasard, au pied des immeubles ou sur des terrains vagues. Après la frappe dimanche soir d'un missile russe sur un centre commercial du nord-ouest de la ville, où étaient camouflés munitions et pièces d'artillerie selon Moscou, la crainte est celle de drones espions ou kamikazes, comme des photos sur les réseaux sociaux qui pourraient révéler les positions ukrainiennes. Au total, 228 personnes, dont 4 enfants, ont été tuées dans la capitale depuis le début de l'invasion. Une grande partie des 3,5 millions d'habitants de Kiev, en majorité femmes et enfants, ont fui la capitale depuis le début de l'invasion russe.
Et plus de 3,5 millions de personnes ont fui, on le disait, l'Ukraine, selon le décompte de l'ONU publié mardi. Mariupol a été frappée par deux bombes super puissantes. Quelques 200 000 civils sont toujours coincés dans la grande ville portuaire où des chars russes sont entrés après des semaines de bombardements.
Des habitants qui ont réussi à s'enfuir l'ont qualifié d'enfer glacial avec des rues jonchées de cadavres et de décombres d'immeubles détruits et des milliers de personnes coupées du monde, terrées dans des sous-sols sans eau, nourriture, électricité ni communication.
Jack Sullivan, conseiller du président Joe Biden en matière de sécurité nationale, a dit qu'il faut s'attendre à davantage de sanctions et au renforcement de celles qui existent déjà quand M. Biden rencontrera jeudi les alliés européens à Bruxelles.
La Russie n'utiliserait des armes nucléaires qu'en cas de ce que le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a appelé une menace existentielle contre la Russie. C'est ce qu'il a dit dans une interview sur CNN International.
Et l'armée ukrainienne qui mène des contre-offensives qui ont permis, dans le sud notamment, de reprendre du terrain sur les troupes russes, a assuré mardi le porte-parole du Pentagone. Les militaires ukrainiens sont désormais dans certaines situations à l'offensive, a déclaré John Kirby sur CNN, affirmant qu'ils pourchassent les Russes et les repoussent en dehors de zones où les Russes étaient par le passé.
En Israël, 4 personnes ont été tuées hier dans une attaque au couteau et à la voiture bélier perpétrée par un homme de Beersheba, la principale ville du désert du Negev, dans le sud du pays. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Le suspect a poignardé une femme à une station essence, puis a renversé avec sa voiture un cycliste avant de continuer sa course vers un centre commercial à proximité, selon la police israélienne. Il est alors descendu de son véhicule pour poignarder un homme et une femme. Des civils présents sur place ont ouvert le feu en direction de l'assaillant et l'ont neutralisé, a ajouté la police israélienne, sans préciser si l'homme était toujours en vie. Les services de secours ont fait état de 4 morts. Le Premier ministre Naftali Bennett, qui venait de rentrer d'un sommet en Égypte, a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a salué le courage des civils qui ont ouvert le feu sur l'assaillant. Il a indiqué que les forces de sécurité de l'ensemble du pays sont en état de haute alerte. Sans revendiquer directement l'attaque, Azem Kassem, un porte-parole du mouvement islamiste Hamas, a affirmé que cette opération est une réponse à la politique de déplacement ethnique pratiquée par Israël contre le peuple palestinien à l'intérieur des territoires occupés.
La Minute Éco, Nanit Talani.
C'était hier la journée mondiale de l'eau. Les besoins de financement dans le domaine de l'eau seront multipliés par 6 d'ici 2030, souligne la Banque mondiale. L'Afrique devra investir jusqu'à 20 milliards de dollars chaque année dans le secteur hydraulique, contre 0,5 de leur PIB actuellement. L'institution exhorte les décideurs politiques, les chefs d'entreprise, les ONG, les donateurs et les organisations qui se retrouvent à Dakar au Forum mondial de l'eau de renforcer les réformes, d'augmenter les investissements publics et privés et d'encourager une plus forte participation citoyenne. Près de 2,4 milliards de femmes en âge de travailler dans le monde ne bénéficient pas des mêmes droits que les hommes, souligne un rapport de la Banque mondiale. 178 économies maintiennent des obstacles juridiques qui empêchent la pleine participation des femmes à la vie économique. Dans 86 économies, ces femmes sont confrontées à une forme de restriction d'accès à l'emploi et 95 pays ne garantissent pas un salaire égal pour un travail égal. Terminons par la Tunisie qui a créé un comité technique pour la mise en place des mécanismes de réduction progressive des subventions à l'électricité et au gaz naturel. Il va établir un rapport de synthèse périodique ainsi que des propositions, recommandations et conclusions qui seront transmises au ministre de l'Énergie. Selon la ministre du Commerce, Fadila Ribi Ben Hamza, aucune suppression des subventions sur les produits de base n'est envisagée.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Coup d'envoi ce mercredi des préliminaires des éliminatoires de la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023. 10 sélections entrent en lice un mois et demi après le sacre du Sénégal à la CAN 2021. Le Tchad accueille la Gambie, quart de finaliste au Cameroun, au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Les Sao, entendez l'équipe nationale du Tchad, effectuent ainsi leur retour à la compétition, eux qui étaient sous le coup d'une suspension de la FIFA jusqu'en octobre 2021. Suite au retrait de l'Érythrée, le Botswana est qualifié d'office pour la phase de groupe des éliminatoires. Il rejoint ainsi les 42 autres sélections qualifiées d'office pour la phase éliminatoire en poule. Les 24 nations qui se qualifieront pour la phase finale se disputeront la succession du Sénégal en Côte d'Ivoire du 23 juin au 23 juillet 2023. Des pépins pour le Cameroun à 2 jours des barrages du Mondial 2022 Zone Afrique. Mouni Ngamaleu, l'ailier camerounais des Youngbirds de Berne, a déclaré forfait et a été remplacé par l'ailier du club local de Coton Sport de Garoua, Swahibou Marou, qui va honorer sa première sélection. En plus de lui, le milieu de terrain André-Franck Zambo Anguissa, blessé, ne sera pas là pour la double confrontation contre l'Algérie les 25 et 29 mars prochains. Hier mardi, le portier titulaire André Onana a été victime d'un accident de circulation. Le portier des Lions indomptables a rejoint ses coéquipiers dans la tanière à Douala mardi. Plus de peur que de mal pour l'instant après l'accident de la circulation dont il a été victime à Sombo sur l'axe Yaoundé-Douala, peut-on lire sur le compte Twitter de la FECAFOOT. Sébastien Coé, le président de World Athletics, exprime sa crainte de voir le sport féminin fragilisé par la participation de transgenres qui pourrait forcer l'équité des performances, Selon le patron de l'athlétisme mondial, au-delà des débats des sociétés et des questions d'éthique que soulève la présence des sportives transgenres dans les compétitions, le genre ne peut pas l'emporter sur la biologie. Sa prise de parole intervient quelques jours après la performance réalisée par Lia Thomas, une nageuse transgenre américaine, au championnat universitaire américain à Atlanta, en Géorgie. L'étudiante née de sexe masculin est devenue la première nageuse transgenre à remporter un titre universitaire en remportant le 500 yards nage libre en 4 minutes 33 secondes. Lia Thomas, qui avait dans le passé concouru en tant qu'homme, divise l'opinion publique aux États-Unis, ses détracteurs estimant qu'elle bénéficie d'un avantage physiologique injuste.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, l'Assemblée législative de la transition est désormais fonctionnelle. Les députés ont validé hier matin leur mandat. L'universitaire Aboubakar Tougueyeni a été élu président de cet organe de transition. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Ici à l'hémicycle, les 70 membres que compte cette assemblée ont élu Aboubakar Tougueyeni, âgé de 58 ans, un ancien chercheur, comme président de l'Assemblée législative de la transition. Cet inconnu du grand public fait partie des choix du président Damiba pour entrer à l'Assemblée législative. Le nouveau patron du Parlement définit sa priorité majeure.
Mon mandat sera inscrit dans le sang de l'engagement pour le pays dans sa quête de sécurité, de dignité et d'honneur. Je sais que c'est une transition pour asseoir les fondements pour une société plus juste et de moralisation de la vie publique. Avec mes collègues de l'ALT, je veillerai au contrôle de l'action du gouvernement, à la défense des intérêts du peuple et nous prendrons aussi l'initiative de propositions de loi ou toute autre action allant dans le sens de l'intérêt supérieur de la nation.
Les membres de l'Assemblée législative de la transition sont tous conscients des difficultés du pays. Abdoulaye Souma, nouveau député.
S'il y a une reconstruction de Burkina Faso qui passe par le droit, je pense que du point de vue national, j'ai un avantage comparatif, j'ai des compétences acquises avec le soutien du peuple burkinabé en matière de droit constitutionnel, en matière de réforme législative, en matière d'expérience de gestion de la transition que je me suis imposé pour obligation de mettre à la disposition de la nation burkinabé en ce moment précis de notre histoire nationale.
Haruna Loure, nouveau député.
Le souhait vraiment, c'est qu'il soit un homme convaincu, un homme courageux qui prend des décisions difficiles quand il le faut pour que le pays puisse avancer. Notre apport, c'est de défendre ce que nous avons toujours défendu, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, les vols, les gabégies dans toutes les institutions de l'État. C'est de pouvoir faire des propositions de loi qui vont dans ce sens-là.
Ninkoura Bayoul, une députée.
Notre mandat a été validé, donc on est là pour 3 ans et je pense que ça passe vite. Donc il faut aller directement à l'action, c'est-à-dire voir les priorités. Donc tout le monde connaît déjà, c'est restaurer ramener les gens, les personnes déplacées dans les rues.
L'ensemble des institutions de la transition sont désormais fonctionnelles. Après la nomination d'un premier ministre, un gouvernement et de l'Assemblée législative de la transition, place maintenant au travail. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
En Guinée, une partie de la classe politique a boudé hier la cérémonie d'ouverture des assises nationales. C'est le colonel Mamadi Doumbouya qui a procédé ce mardi à Conakry au lancement des journées dites de vérité et de pardon. Ces assises étaient une promesse de la junte qui a chassé le président Alpha Condé du pouvoir le 5 septembre 2021. Le point avec notre correspondant Zakaria Camara.
Le colonel Mamadi Doumbouya est convaincu qu'il est temps pour les Guinéens de se parler. Son discours, le seul de la cérémonie d'ouverture des assises nationales, porte un message d'appel au dialogue.
C'est maintenant ou jamais que nos cœurs et nos esprits doivent se libérer. Ici, l'enjeu est comment assumer notre histoire dans toute sa grandeur et sa facette la moins lumineuse pour avancer.
Une partie de la classe politique guinéenne a déclaré ne pas être intéressée par ces discussions, préférant un cadre de dialogue avec la junte. Même s'il précise que les débats seront apolitiques, le président de la transition a lancé un appel à l'endroit de tous, y compris les politiques.
Les assises nationales sont au-dessus de toutes les considérations politiques, ethniques, religieuses de notre nation. Elles faciliteront dans tout le vivre ensemble auquel nous aspirons. J'en appelle à l'implication des acteurs politiques, culturels, religieux et socio-professionnels pour conférer à cet événement toute la réussite qu'il mérite.
Ces assises se tiennent quelques jours après la publication d'une déclaration signée par 58 partis politiques, dont l'UFDG de Sidi Alain Diallo et l'UFR de Sidia Touré. Ces partis dénoncent des dysfonctionnements qui entravent, selon eux, la réussite de la transition. Dans les rues de la capitale, chacun y va de son analyse.
C'est une bonne chose. Je dirais que qu'est-ce que ça réussisse et que vraiment ça soit une occasion que les Guinéens se parlent ensemble, que les Guinéens se donnent les mains pour un développement harmonieux.
Il faut qu'il y ait forcément la concertation pour que le chronogramme soit bien défini dans le temps et dans l'espace et que tout le monde puisse être situé par rapport à ça, c'est tout.
On devrait normalement faire des dialogues entre les CNRD et les acteurs politiques.
Nos attentes sont très nombreuses. La vérité sera dite. Le pardon, s'il est accepté, c'est une bonne chose. C'est une voie tout tracée pour la réconciliation nationale, gage de tout développement dans notre pays.
Les Guinéens attendent toujours un chronogramme pour un retour à l'ordre constitutionnel. Selon l'article 77 de la charte proposée par les militaires, la durée de leur transition sera fixée après un accord entre le CNRD et les forces vives de la nation. Zakaria Kamara pour VO Afrique, Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Au Tchad, le prix de la baguette de pain a augmenté sans aucune concertation préalable avec les parties prenantes. La population se dit indignée et surprise du comportement des commerçants qui, selon elle, profitent toujours de la moindre occasion pour faire flamber les prix des denrées. Le point avec André Kodmadjingar, notre correspondant à N'Djamena.
Une baguette de pain qui se vendait à 100 francs CFA se vend désormais entre 125 et 150 francs CFA. Une situation que dénoncent les consommateurs.
On ne sait pas pourquoi ça a augmenté.
On trouve un peu bizarre, quoi. Mais la cause principale, on ne connaît pas. On ne sait pas si c'est quelque chose qui est national ou international.
Nous voulons tout simplement savoir ce qui est vrai. Il faudrait qu'ils nous expliquent qui est à l'origine de tout ça.
C'est le commerçant qui a augmenté ou bien c'est l'État tchadien qui a augmenté le prix du pain.
Certains consommateurs tentent de donner les raisons de cette inflation.
On a appris que voilà, il y a guerre en Russie et l'Ukraine. Paraît-il que la farine vient de là-bas. Mais subitement, les commerçants ont augmenté le prix de la farine. Au lieu de 1100 francs, je prépare le gâteau. Mais arrivé au marché, je me suis rendu compte qu'ils ont encore augmenté le prix de farine à 1750. Donc je crois que ça nous touche vraiment.
C'est anormal puisque la guerre ne nous concerne pas. C'est quelque chose qui est tellement loin de nous. Et par comment les gens vont augmenter le prix du pain d'un coup comme ça? Pourquoi?
Pour le président des délégués du marché central, par ailleurs coordinateur des 12 marchés de N'Djamena, Mohamed Ali Moussa, c'est l'esprit du gain facile qui amène les commerçants à augmenter le prix de leur stock de farine et il dénonce le silence complice du gouvernement.
J'ai interpellé le gouvernement, y compris les chambres de commerce. Pourquoi ils ont mis le silence? Parce que s'ils sont complices, il faut dire clairement. Quand les farines quittent là-bas, même ça va durer de 2 mois et quelques. Ou bien au-delà de ça, ils vont augmenter le prix parce qu'ils ont entendu que là-bas, ils ont stocké tout ce qui est arrivé au port Douala. Pour cela qu'ils ont augmenté le prix. C'est pas normal. Nous sommes des consommateurs. Nous sommes tous victimes. Le gouvernement doit prendre une mesure nécessaire. Sinon, l'huile, les macaronis, les spaghettis, tout ça, ça va aller augmenter au-delà de ça aussi.
Le secrétaire général de l'Association pour la défense des droits des consommateurs, Daouda El Hadj Adam, estime que ce qui se passe est injuste et inadmissible, même si le secteur de commerce est libéral au Tchad.
Il faut que les consommateurs s'expriment, refusent d'acheter le pain. Quelles que soient les raisons, on parle de l'augmentation du prix des sacs de farine, c'est de la pure spéculation. C'est vrai, les cours mondiaux augmentent, mais le stock qui est sur le marché actuellement, c'est un stock qui a été commandé avant la guerre de l'Ukraine. Cet argument ne tient pas. Ça ne tient que pour les spéculateurs.
Daoud El Hadj Adam souligne par ailleurs que la crise ukrainienne doit avoir de conséquences fâcheuses sur le Tchad, qui, malgré sa potentialité en termes de terres arables et de ressources en eau, dépend des importations.
C'est pourquoi nous lançons un cri d'alarme aux autorités de trouver des voies et moyens pour atténuer, pas seulement aujourd'hui sur le prix du pain, on pourra le constater sur les huiles et sur les d'autres produits, alors que tous les pays tentent de fermer leurs frontières ou d'interdire les exportations ou de surtaxer les exportations. C'est une situation préoccupante pour un pays qui n'a pas sa souveraineté alimentaire comme le Tchad.
Aucune réaction du côté du gouvernement qui, pour l'instant, a comme préoccupation majeure la réussite des pourparlers de Doha au Qatar. André Kodoma Djingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé récemment d'uniformiser le prix de la poche de sang à 3000 francs CFA. Cette mesure concerne toutes les structures sanitaires, privées et publiques. Les acteurs du secteur de la santé et les populations réagissent à cette annonce. Un reportage de Delphine Boise, notre correspondante à Abidjan.
3000 francs CFA, c'est le nouveau prix pour accéder à la poche de sang pour tout souci sanitaire nécessitant une transfusion sanguine. Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, l'a annoncé le 9 mars au cours de la conférence de presse à l'issue d'un conseil des ministres.
Le conseil a décidé d'uniformiser le prix de cession du sang et des produits sanguins à 3000 francs CFA, aussi bien dans le secteur public que privé, en vue notamment de mettre un terme, sinon d'éradiquer la spéculation et les trafics de tout genre qui se font autour du sang, vu qu'il y avait une disparité de coûts entre le public et les édifices privés.
Pour le SINACASI, syndicat national des cadres supérieurs de la santé, cette décision du gouvernement va faciliter l'acquisition de sang par les malades qui en ont besoin. Docteur Akwes Esso Guillaume, secrétaire général du SINACASI.
La mesure du gouvernement, si elle permet de rendre le sang disponible pour tous les patients, nous, praticiens, nous sommes très heureux parce que c'est très difficile pour nous de prescrire du sang, de vouloir sauver la vie des patients et de constater que le produit manque. L'État vient de prendre une mesure. Nous prenons acte parce que dans le dispositif, nous ne faisons que prescrire le sang et c'est l'État qui organise la vente de sang.
Docteur Joseph Bodifo, président de l'association des cliniques privées, estime que le privé ne vend pas le sang, mais le revend au prix auquel il l'a acheté. Il salue la position du gouvernement et espère que d'autres décisions du même genre vont suivre.
Aujourd'hui, le sang n'est pas un élément qui se vend, ce n'est pas un élément commercial. Le sang est essentiel à la vie des gens. Il doit faciliter l'accès au sang d'accessibilité. Parce qu'autrement, dans le temps, ça donnait l'impression que le secteur privé vendait le sang et qui n'était pas du tout le cas. Le secteur privé va acquérir du sang au prix auquel on lui a vendu et il le revend tranquillement au même prix sans cette marge. Et de savoir qu'on passe aujourd'hui pratiquement de 25 000 francs dans le secteur privé à 3 000 francs, c'est quelque chose que nous pouvons te saluer de notre main et émettre l'espoir que deux décisions soient prises dans ce sens pour faciliter l'accessibilité des populations aux soins du secteur privé de la santé.
La population se réjouit de cette décision du gouvernement.
Yacoub Traoré, le gouvernement a vraiment pris une grande décision pour profiter à la population.
Madame Kadio, 3000, c'est bien, le prix est devenu moins cher.
Francis Kouakou, c'est une très bonne initiative pour aider les familles.
Je félicite le gouvernement.
Dans le programme social du gouvernement, le volet santé occupe une place de choix, mais l'accès aux soins de santé est toujours tributaire à la poche du client, qu'il soit riche ou pauvre. Delphine Bouise, Abidjan, VOA, Afrique.
Mandia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'accès à l'eau potable en Afrique dans un contexte de changement climatique. Le 9e Forum mondial de l'eau se tient du 21 au 26 mars à Dakar sur le thème « La sécurité de l'eau pour la paix et le développement ». Alors qu'en Amérique du Nord, un habitant a accès en moyenne à 250 litres par jour, dans le Sahel, le ratio est d'une personne pour moins de 10 litres. Comment résoudre la question de l'accès à l'eau potable en Afrique? Comment éviter qu'il ne soit source de conflits entre pays ou entre communautés? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoudia et de John Linden au micro, Georges Léonard Sagnot à la mise en onde et Kelvin Fowler à la console. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.